88.3. Yes. This is the way we
rock the house. Radio Campus 88.3.
Vous aimez les mix?
Ouais. C'est des mélanges de disques, ouais, ouais. Plusieurs disques à la fois, voire deux disques parfois.
Je commence à en avoir marre de ton micro sillon.
Radio Campus 88.3.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois qu'il y a des clashs.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir à toutes et tous, c'est À bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis, hein, vous savez, entre 19 et 20 heures, sujet d'actualité locale, nationale, internationale, avec Victor. Salut Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Steven, qui m'accompagne également ce soir.
Ouais, t'as repris ton ancien look. Ouais.
Oui, t'as vu. Vous croyez quoi, les gars, que j'allais pas écouter l'émission?
Non.
Mais je suis très bon. Mais l'émission était très, 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 très bien. Je vous invite, amis auditeurs, à aller écouter en podcast. Hein, ça existe en podcast. Ils étaient tous les trois. Et mardi prochain, on recommence ça. Ils seront encore tous les trois aux commandes de cette émission. Ce soir, un invité, Arnaud Réguigne. Bonsoir, Arnaud.
Bonsoir Hassan, merci de l'invitation.
Mais de rien, on essaie de vous faire venir. Alors je sais pas, on se connaît, donc on va se dire tu, hein, c'est possible. Oui. On est plus à l'aise. Président de l'association DAMO, Droit, Accessibilité et Mobilité Métropole Orléans. On parle avec toi dans cette émission de l'émotion suscitée par le vélocide, il n'y a pas d'autre mot, hein, il y a quelques jours à Paris. Alors Paul, c'était ça, un jeune cycliste, oui. tué par un SUV, j'ai vu.
Tu es pour un conducteur, ouais, SUV plutôt, SUV automobile.
Je voulais te faire réagir là-dessus parce que souvent on voit dans les titres, hein, quand il y a comme ça quelqu'un qui est mort à la suite d'un accident, tué par un camion, tué par un vélo.
D'ailleurs le terme juste n'est pas accident mais collision.
Collision, absolument.
Parce qu'un accident ça veut dire que la responsabilité de personne n'est engagée.
Ouais.
Alors qu'une collision ça veut dire que techniquement quelqu'un est rentré dans quelqu'un d'autre.
Mais c'est la première fois Arnaud que ça suscite autant de colère et d'émotion partout en France. C'était samedi, des réunions, des rassemblements partout devant les mairies à Orléans, un peu plus d'une centaine de personnes à l'appel du DAMO et de la Vélorution. On dit un mot, oui, sur la Vélorution, c'est pas une association.
Vélorution, c'est un collectif en fait qui est antérieur à DAMO, qui existe depuis à peu près 8 ans sur Orléans. Il y a des branches un petit peu partout en France et c'est des personnes qui souhaitent développer le vélo en ville et à la campagne également.
Avec des événements régulièrement.
Oui, on organise en fait des événements plutôt festifs, on va dire, autour du vélo, donc des balades, notamment le dernier vendredi du mois, rendez-vous à 19h sur les quais face au cinéma. Et on fait une petite balade en ville d'une heure à Orléans.
Et le vélo, faire du vélo à Orléans, c'est pas simple, ni dans la métropole orléanaise. On va aussi en parler dans cette émission. On en a parlé l'année dernière. On va voir si ça avait. L'année dernière, on se disait combien de pistes cyclables de kilomètres.
Je sais plus, on était de 4 kilomètres de fait depuis
c'est
2019.
Mieux là,
non, on n'a pas beaucoup avancé.
Vous faites quoi les gens, là, les élus? Bon, on va en parler en tout cas, oui, dans cette émission. Mais comme vous le savez, on va démarrer cette émission avec la chronique de Mourad. Victor, Mourad était en studio avec nous hier.
C'est ça.
Pour parler également de la ville d'Orléans avec une annonce. Là, vous saviez, vous n'aviez plus de lumière là, depuis l'hiver 2022. Eh bien, la lumière revient. Le maire Serge Gouard a décidé de remettre les lumières parce que je pense qu'il y a des étrangers qui sont là. Il y a des trucs. On en parle de tout ça dans cette émission. C'est À bâton rompu jusqu'à 20h. Bienvenue.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi Hassan et bonsoir Victor.
Bonsoir Mourad, bonsoir Hassan.
Bonsoir Victor. Oui, une chronique enregistrée en studio. Plaisir de t'avoir ici en direct. Nous allons parler d'Orléans. Nous allons parler d'une décision récente du maire d'Orléans. On met en perspective. La mairie avait décidé d'éteindre l'éclairage public entre 0h et 5h à la fin de l'année 2022. C'était pour nous disait-on, pour motif d'économie à cause des prix de l'électricité devenus trop chers. Et il y a quelques jours, Serge Grouard, maire d'Orléans, a décidé de remettre l'éclairage public cette fois-ci. pour d'autres raisons. Il était invité sur RMC il y a 2-3 jours.
Oui, à peu près, c'est ça, la semaine dernière.
Et il nous en parle.
Donc, bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Alors, monsieur le maire, pourquoi vous avez décidé de rallumer, alors, monsieur le maire?
C'est très simple. D'abord, nous, sur les questions de sécurité à Orléans, nous sommes en pole position, si je puis dire. Depuis que je suis maire, c'est simple, moins 82% de délinquance à Orléans. Et nous sommes pour ça la première des grandes villes de France. Donc, on n'est pas, nous, dans le monde des
bisounours. Il faut remplacer monsieur Retailleau. Hein.
Ouais. Voilà. Non. Il fait très bien. Je le soutiens. Il a annoncé des choses très, très bien. Donc, il a tout mon soutien, Bruno Retailleau. Maintenant, pourquoi on rallume? Tout simplement parce que, depuis un an à peu près, l'État nous a envoyé à peu près 600 migrants et SDF.
J'ai pas osé le dire, monsieur le maire.
Je le rappelle. Et alors, on nous a dit à l'époque, vous savez, c'est formidable, il y a des centres d'accueil, des SAS, etc. Tout va bien aller. Pas du tout. Je dis, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Donc, on a des personnes qui ont débarqué comme ça du jour au lendemain, d'accord? À peu près 600 en un an. Et pour une bonne partie, on va les retrouver dans la ville parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'il n'y a pas d'accueil, parce qu'il n'y a rien du tout. Donc, résultat des courses, j'ai des habitants qui ont peur parce qu'il y a des rixes, il y a des bagarres, il y a des gens qui couchent dehors. On fait tout notre possible, nous, pour traiter ces questions, mais on n'a pas des moyens démesurés et on ne peut plus, tout simplement, parce qu'on a été débordé. La police municipale, elle est efficace, je peux vous l'assurer. Elle y est toutes les nuits. Toutes les nuits, sans exception.
82% en moins, vous avez dit donc. Ça se passe pas trop mal. J'ai une question, monsieur le maire. J'ai une question. On avait beaucoup écouté parler des SDF qui venaient, voire des migrants, qui avaient été déplacés avant le début des JO. Mais est-ce que ces SDF, vous les avez toujours, ou est-ce qu'ils sont rentrés à Paris?
Mais ils sont plus en SAS maintenant.
Il y en a une partie qui est peut-être rentrée à Paris, etc. Mais nous, on en a gardé une bonne partie.
Et la délinquance, c'est une réalité avec eux ou c'est un sentiment?
Mais une c'est question, pas un simplement. Sentiment, je vous dis,
d'accord,
moi,
je vais poser la question.
Des bisounours, d'accord. C'est une réalité. Là, j'ai eu, il y a quelques
Et comment
jours,
vous faites moins 82% alors?
Comment on fait? Là, il faudrait que j'ai une heure.
Parce que si c'est une réalité, vous allez avoir une montée de la délinquance.
Non, mais
si
moins en fait, c'est des personnes. En fait, monsieur le maire...
Laissez parler, monsieur Groire. Laissez-vous.
On fait de la tolérance zéro d'un côté avec les forces de sécurité et on fait de la prévention réussite éducative de l'autre. C'est les deux avec des programmes extrêmement précis, des actions très concrètes dans tout cela, tous les jours au quotidien, qui fait qu'on a une baisse de cette délinquance et notamment une baisse des mineurs impliqués. Mais là, on est débordé par ces flux venant de Paris, qu'on nous a imposés, qui ne sont pas pris en compte, et donc j'ai des gens qui ont peur. Donc parmi toutes les mesures que je prends, il n'y a pas que celle-ci, il y a le fait de rallumer l'éclairage public la nuit, parce que notamment il y a des femmes qui ont la trouille.
C'était aux grandes gueules et aux grandes gueules, tout le monde parle en même temps. Et moi, quelques jours après, me semble-t-il, Yann Moix, qui est originaire d'Orléans, qui a même écrit un livre sur Orléans, qui s'appelle Orléans,
absolument,
est invité, lui, sur C8, et ils l'ont questionné sur justement le maire d'Orléans qu'il connaît bien. Écoutez.
Serge Groire est un de mes amis. C'est un excellent maire, je trouve même sans doute le plus grand maire de France. Pourquoi? D'abord parce que c'est un républicain, c'est la droite propre. Il n'y a pas besoin de faire du Robert Ménard, contre lequel je n'ai rien personnellement, je répète, pour faire respecter sa commune. Serge Groire est quelqu'un d'extrêmement républicain et pragmatique qui a fait baisser depuis les 30 dernières années, on va dire, la délinquance de manière extraordinaire à Orléans. Orléans était devenue une ville dangereuse. Maintenant, Orléans est devenue non seulement une très belle ville au plan urbain, mais c'est devenu une ville sûre. Vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, Serge Groire avait eu le courage politique de légiférer pour qu'un couvre-feu ait lieu à partir d'une certaine heure. Les moins de 16 ans n'avaient plus le droit de se trimballer dans les rues d'Orléans. Là, on l'a mis devant le fait accompli en lui envoyant des gens en errance, on n'a rien évidemment contre ces gens-là, et qui effectivement ont commencé par le nombre, simplement le nombre, à défigurer les rues la nuit. Donc Serge Groire a décidé que les habitants d'Orléans étant sous son mandat en situation de détresse psychologique la nuit, il a fait en sorte que les rues puissent être praticables.
Donc Serge Groire a fait que les rues soient praticables, Mourad. Un mot sur Yann Moix?
Parce que c'est comme il le dit, les gens, c'est bien connu, sont en détresse psychologique. Hein. Il y a des baromètres pour ça, c'est tout à fait vérifiable. C'est pas du tout une information comme ça lancée à la légère. Alors concernant Yann Moix, donc qui est un, je rappelle, un ancien essayiste qui jadis avait commis des dessins antisémites, hein, qui avait raillé la Shoah notamment. Il s'en expliquait de manière un petit peu maladroite il y a quelques années quand ses dessins sont revenus à la surface. Tient un discours absolument inaudible puisque. En fait, pour qui connaît Orléans, j'entends, évidemment, là, c'est des antennes parisiennes, ils connaissent pas la ville, donc ils croient à ce qu'il raconte, il n'a pas de contradiction sur ce plateau. Alors, c'est le meilleur maire de France, ça, c'est tout à fait subjectif, d'une part, donc ça s'appuie sur rien du tout. Il peut le penser, moi, ça me dérange pas, c'est un ami, il l'a dit, il a l'honnêteté de le dire, simplement, il va avancer des choses qui sont totalement fausses. Par exemple, il va parler d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. C'est absolument faux, c'est moins de 13 ans, moins de 16 ans, ça aurait posé un véritable problème. Y compris juridique. Il parle ensuite d'une baisse de la délinquance depuis 30 ans que Serge Gouard est maire. Si c'était son ami, il saurait que ça ne fait pas 30 ans que Serge Gouard est maire. Et si on fait le décompte précis, puisqu'il n'a pas été maire pendant quelques années, c'était Olivier Carré à qui il a planté un couteau dans le dos, un ami de 30 ans, qu'il n'a pas hésité à dézinguer pour récupérer sa place de maire parce qu'il avait misé sur François Fillon, dont on connaît, dont on connaîtra l'avenir de présidentiable en janvier, le 24 janvier, je crois, 2017. Donc c'est faux. Alors ce sont des, alors à minima des âneries, mais factuellement ce sont des choses fausses. Ensuite il va évoquer, comme le fait Grouard de manière assez récurrente, l'histoire des 82% de baisse de la criminalité, de la délinquance et ainsi de suite. Je veux dire, alors il y a, je vais prendre le quartier de la Source. On n'est pas très loin, enfin on est même dans le quartier de la Source. Si on va se balader pas très loin d'ici, j'en parlais avec le regretté Michel Ricoux, il est assez facile de se procurer des stupéfiants à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Donc ça n'a factuellement pas baissé, d'une part, et d'autre part, toujours à la Source, je crois que c'était la Chambre régionale des compte, si mes souvenirs sont bons. Enfin, il y avait eu un rapport qui était sorti il y a quelques années de ça, j'avais eu à écrire dessus. Les horaires, par exemple, du commissariat de la Source, où on peut venir déposer plainte, se sont resserrés de manière drastique. Ce qui fait qu'il est très difficile, en dehors des heures de travail, il est très difficile de venir porter plainte, et que de manière mécanique, moins il y a de plaintes et plus on a l'impression qu'il y a moins de délinquance, ce qui n'est pas vrai. Concernant le traitement alors des migrants et des SDF qui sont littéralement traités d'agresseurs sexuels en puissance, ce ne sont qu'eux qui sont, comme si avant l'arrivée de ces fameux migrants et de ces fameux SDF, d'ailleurs ce qui est contesté par la préfecture en termes de volume, puisque là on parle plus d'êtres humains, hein, on parle de quantité, qui a bien rappelé qu'il y avait une répartition sur l'ensemble du territoire. Pourquoi est-ce que le maire d'Orléans viendrait hurler comme ça, si ce n'est pour pouvoir passer dans les médias avec son fameux discours anxiogène d'une part et xénophobe, puisque là on parle des migrants, d'autre part. Donc je trouve que tout ça sent très très mauvais, et contrairement à ce que j'ai pu entendre ça et là, il ne vient pas draguer le Rassemblement National ou les électeurs du Rassemblement National du tout, puisque l'élection est passée, les principales élections sont passées. Il n'a pas besoin de les draguer deux ans, je crois que c'est dans deux ans les municipales, hein, on va voir quelle stratégie il va adopter. Il a suffisamment de discours dans son programme d'une part, et puis d'alliés dans son équipe pour capter déjà, et c'est ce qui est le cas depuis de nombreux mandats, de capter, à une exception près je crois, de capter l'électorat du Rassemblement National, puisqu'il tient un discours très clair, notamment sur les musulmans, et notamment sur les migrants. On se rappelle de l'épisode par exemple du relais orléanais. Il avait baissé les subventions en accusant le relais orléanais de faire venir cette fameuse expression de pompe aspirante.
Le relais orléanais qui accueille, hein, les SDF notamment, et certains.
Oui, mais de toutes origines. Enfin, c'est pas spécialement des gens. Et d'ailleurs, ça avait valu à l'opposition, je me rappelle, en conseil municipal, d'avoir ce discours que j'avais trouvé sensé, de dire que les Africains ou les Subsahariens, enfin pardon, les Africains subsahariens ou les Maghrébins vont pas traverser la Méditerranée pour venir manger un sandwich à Orléans.
Mais la précision était pour nos auditeurs de Tours et auditeurs.
Oui, absolument. Donc voilà. Donc je trouve ça assez. Je vais reprendre un terme cher à Serge Gouard. Je trouve ça assez lamentable. Une fois fois de plus de se servir des plus précaires, des plus pauvres, des plus malmenés pour essayer d'exister sur la scène nationale. Il a toujours pas été secrétaire d'État, il a toujours pas été ministre, contrairement à ce que avait pu avancer notamment la presse locale qui le voyait déjà ministre sous Barnier, parce qu'il était proche de Barnier. Bah toujours pas. Donc il retente de nouveau d'exister, et ça peut pas se faire. Je peux comprendre qu'il soit attiré par les micros et par les caméras, ça peut pas se faire à n'importe quel prix. Si il a la solution miracle depuis 20 ans, pourquoi ne l'applique-t-il pas là, au lieu de venir chouiner dans les studios et sur les plateaux de télé? Je ne comprends pas. Il devrait pouvoir appliquer cette solution. La solution, je rappelle quand même que pour les SDF, la solution trouvée à la gare notamment d'Orléans, si vous passez par la gare d'Orléans, c'est de mettre des monuments anti-SDF, c'est-à-dire des statues absolument d'une laideur qui force l'admiration, pour le coup, de Jeanne d'Arc avec Reconquête, enfin bon, des trucs complètement délirants. Qui ne servent évidemment, enfin il suffit de le voir, vous googlisez, vous verrez, c'est clair, c'est en lieu et place de là où se trouvaient à un moment donné des SDF dont on avait, pour lesquels on n'avait pas trouvé ou pas cherché de solution d'hébergement. Donc voilà, je trouve que c'est d'autant plus gonflé quand on sait comment sont maltraités les SDF à Orléans déjà, de pas avoir anticipé, de pas avoir de solution. En fait, ils ne cherchent pas de solution, très clairement. Ils cherchent à s'en débarrasser, purement et simplement, mais comme une espèce de gens malfaisants, une quantité de gens malfaisants qui seraient par nature des agresseurs sexuels, des violeurs, et pour ça il va se servir de gens qui n'existent pas, c'est-à-dire des femmes qui se sentent en insécurité, en détresse psychologique, je reprends les termes de Yann Wax, alors que à ma connaissance j'ai pas, c'était pareil pendant le Covid, hein. Je me rappelle que Grouard passait sur les plateaux de télévision, il nous a fait un jour un numéro Cinecitta absolument magnifique sur les commerçants en disant des sanglots dans la voix, tous les jours il avait des commerçants en ligne pendant le Covid et pendant le confinement, et que ce qu'il redoutait le plus, c'est qu'un jour le téléphone ne sonne plus. Voilà, sous-entendu, il se serait foutu en l'air. Alors qui a le numéro de Serge Grouard? Bon, à part toi, Hassan.
Ben oui.
Je veux dire, personne n'appelle le maire tous les jours. Mais ça n'a aucun sens.
Il répond plus. Ben justement, je voulais en venir là tout à l'heure. C'est que il choisit ses médias, Serge Grouard. Il très peu de la presse locale, une certaine presse locale, a encore, lui tend encore le micro. Nous, il refuse de nous parler depuis au moins 2 ans maintenant. Et je vais vous passer ce document, c'est Europe 1, c'est toi qui me l'as envoyé, parce qu'on en a parlé. Et on reviendra sur les buts de Serge Grouard, parce que s'il n'en parle pas au local, bon, on se dit les municipales, il sait qu'il va gagner, mais peut-être un truc au national, mais on sait jamais. Écoutez ceci qui est passé sur Europe 1 il y a 2 jours.
Sur cette question de l'immigration, justement, peut-être évoqueront-ils la situation d'Orléans. Orléans qui fait face depuis plus d'un an à un afflux de migrants inédits.
Hein. Oui, la faute à un dispositif mis en place l'an dernier en vue des Jeux Olympiques. Paris devait être belle, devait être sécurisée pour les Jeux. Ces clandestins et ces sans-abri ont donc été évacués vers plusieurs régions, en bus, toutes les 3 semaines. Mais à Orléans, où le maire n'a jamais donné son aval, les centres d'hébergement sont désormais saturés. Mairie, police, habitants, tous tirent la sonnette d'alarme, écrit leur ras-le-bol. Reportage Maïhélène Trémollet.
Un hôtel vétuste, délabré au bord de l'autoroute, un groupe de jeunes hommes errent les yeux rivés sur leur portable. Arrivés de Paris il y a 2 semaines, ils ne savent pas encore combien de temps ils resteront là, ni où ils seront hébergés dans les prochaines semaines. Philippe est à la retraite, il compte les bus les uns après les autres depuis des mois.
On en voit des quarts entiers, c'est des tout jeunes, sans boulot, ils se promènent, ils n'ont rien d'autre à faire.
Depuis 18 mois, la mairie a enregistré plus de 700 arrivées de Paris sans aucune prise en charge sur place, ni suivi de l'État. Des jeunes déracinés sans le sou, les forces de l'ordre craignent une hausse de la délinquance, comme cette policière du syndicat Unité.
On est des personnes qu'on ne voyait pas avant. En fait, ils sont regroupés, puis ils sont en centre-ville, en statique ou à se déplacer en groupe.
Des campements sauvages dans le centre historique de la ville, au milieu des touristes, des tentes que le maire d'Orléans fait automatiquement démonter. Ça devient insupportable, s'énerve Serge Grouard.
On a des comportements agressifs, par exemple de la mendicité agressive. J'ai dit qu'Orléans n'allait pas être Calais. Il y en a marre.
Depuis un an, tous les appels de Serge Grouard sont restés sans réponse des pouvoirs publics. Il attend maintenant de voir ce que va faire le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui selon lui a été le premier à l'écouter.
Maïhélène Trémollet. Et hier, dans le journal du dimanche, Michel Barnier a estimé important de maîtriser les dépenses liées à l'immigration, notamment à l'AME, l'aide médicale d'État, dont le gouvernement veut geler les crédits.
Voilà, je veux geler les crédits. Et ce document s'appelle « Y en a marre ». Orléans face depuis plus d'un an à un afflux de migrants inédits. Victor ?
Oui, ça me fait doucement rigoler qu'il compare la situation d'Orléans à celle Calais. De Calais, parce que moi je connais bien, parce que je viens du Nord, du coup j'avais des amis qui étaient dans des associations d'aide aux migrants à Calais, et la situation en fait, elle n'a absolument rien à voir en termes de volume de personnes, parce qu'à Calais c'était des milliers de personnes qui campaient dans les camps de Sangatte, etc. et tout, et surtout la particularité c'est que en fait, ils voulaient aller en Angleterre, ils voulaient pas du tout rester en France, et au final on faisait un tri entre guillemets en France vis-à-vis des migrants à ce niveau-là, alors que c'était des personnes qui n'avaient pas vocation à rester là et qui n'avaient pas envie d'être là. Et je pense que c'est un petit peu la même situation avec Orléans, c'est-à-dire que si jamais c'était des personnes qui ont débarqué à Paris, peut-être parce qu'ils avaient des attaches, peut-être parce qu'ils avaient des opportunités, etc., et qui maintenant se retrouvent à Orléans, moi je comprends qu'ils fassent la gueule, hein. Il y a quand même pas énormément à la fois de services sociaux qui s'occupent d'eux, et visiblement ils sont pas trop appréciés par la mairie, quoi.
Mais oui, mais enfin il y a des mots-clés comme ça, enfin voilà. Je calais, enfin, il y a des mots-clés comme ça qui font que une certaine frange de la population va s'inquiéter. Alors, je reviens à ma question, Mourad. C'est oui, mais il y a quand même quelque chose derrière. C'était CNews avant, là, c'est les grandes gueules, c'est Europe 1, on sait très bien où se placent ces médias. Il y a quelque chose derrière quand même. C'est-à-dire, je crois, il fait pas ça pour rien.
Non, c'est alors est-ce qu'il y a un but recherché ? Le but recherché, c'est quand même de faire passer ses idées. Je le dis souvent, mais on attribue les questions de positionnement idéologique par habitude, par culture, on l'attribue plutôt à la gauche, plutôt aux idées de gauche, marxistes notamment. Alors ces dernières années, c'est wokiste, islamo-gauchisme et compagnie. Bon. Des concepts évidemment tout à fait flous, pour être très gentil. Mais non, ils ont à droite aussi une idéologie, et cette idéologie peut aussi se traduire par des propos xénophobes. Je reprendrai, on en a déjà parlé ici, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais je vais reprendre cette fameuse lettre aux musulmans, qui est quand même symptomatique, c'est-à-dire qu'elle est... Il y a deux faits marquants dans son positionnement, c'est cette fameuse lettre aux musulmans. Alors, cette lettre aux musulmans, elle n'est pas du tout islamophobe. Parce qu'islamophobe, ça sous-entend, moi je fais vraiment attention à ce terme-là, je l'employais il y a encore quelques années, je ne l'emploie plus du tout, parce que l'islamophobie, en fait, ça signifie la critique d'une religion. Et comme c'est autorisé, heureusement, en France, de pouvoir critiquer une religion, on se sert de ça, alors qu'en fait, il ne critique pas la religion musulmane, il ne critique pas le Coran, il n'a jamais ouvert un Coran, enfin, tous les gens qui critiquent l'islam n'ont jamais, enfin, la plupart, 99% des gens n'ont pas ouvert le Coran, donc ils ne critiquent pas l'essence d'une religion. Ils critiquent, en fait, la religion, mais à travers les gens qui la pratiquent. Et la lettre aux musulmans, elle est claire, nette et précise. Hein. Elle s'adresse aux musulmans, pas à l'islam. Et elle fait l'amalgame très clair, net et précis, puisqu'on est juste après les attentats de Charlie Hebdo, entre les musulmans, musulmans lambda, et les terroristes du Bataclan et de Charlie Hebdo. Donc là, déjà, il y a un problème d'amalgame absolument dégueulasse. En plus, il y a, je vous rappelle dans cette lettre, une espèce de mise en demeure, voire même de menace. Oui, c'est-à-dire que vous êtes les derniers arrivés en France, sur la terre de France. Attention, les Français sont patients, mais, sous-entendu, si vous bougez un peu trop, si vous vous faites entendre et si vous rasez pas les murs, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc ça pose un problème de positionnement. Et puis je rappelle que juste après 2014, il y a eu cette histoire de nomination d'un adjoint en charge des étrangers. On revient aux migrants, là.
L'immigration,
ouais, voilà, qui a été cassé, heureusement, par la préfecture, puisque c'est illégal, évidemment. C'est contraire à la Constitution, contraire à la loi. Un maire ne peut pas, ne doit pas avoir à gérer ces choses-là qui relèvent du régalien, hein, pour parler simplement, enfin, du ministère de l'Intérieur, pour être très précis. Et là, il pleurnichait tout à l'heure les journalistes sur Europe 1 en disant « on lui a pas demandé son avis au maire ». Bah évidemment qu'on va pas lui demander son avis. Ça s'appelle la République. Je veux dire, quand on installe une prison, quand on installe un CRA contre lequel je m'élève évidemment, mais pour les prisons, on demande pas l'avis. Bah, heureusement, sinon il y aurait des prisons nulle part, tout simplement. Alors on peut être contre les prisons, j'entends. Je prends juste cet exemple-là, hein, sans jugement de valeur. Évidemment qu'à un moment donné, quand il y a un intérêt... qui est critiquable. Le fait que Paris se déleste de ses, pour continuer à employer des termes techniques, se déleste des CSDF et de migrants qui sont pas foutus d'héberger à la veille des JO, c'est contestable. Sauf que quand il y a une décision qui est prise par l'État, bah elle est prise par l'État, point. Il n'a pas à donner son point de vue, sinon il y aurait, je vous dis, il y aurait un certain nombre d'équipements qui n'existeraient pas sur le sol, puisque je pense notamment aux déchetteries, à toute une série de choses qui sont vitales. Donc voilà, donc je trouve ça déplorable. Et alors, pour terminer sur la jungle de Calais, alors je rejoins absolument ce que dit Victor, ça n'a aucun sens. Et évidemment, c'est un peu, vous savez, que le Front National dans les années 90, disait, c'était au moment, je crois, de l'affaire Dutroux, avait fait carrément des affiches où il disait que les homosexuels d'aujourd'hui sont les pédophiles de demain. Et donc l'emploi du mot pédophile est clair, net et précis. Il est là pour faire l'amalgame entre les deux, tout comme la jungle. Et d'ailleurs, j'avais assisté à une conférence d'Edwy Plenel qui présentait son dernier livre, que je vous conseille vraiment, où il expliquait que c'est nous, les Français, qui avons choisi le terme jungle. Eux n'emploient pas ce terme-là. Ouais. Ils ont un terme beaucoup plus soft, je crois que c'est l'Inde quelque chose, mais c'est nous qui avons junglisé, et on en a fait des animaux de safari, voilà. Donc, si vous voulez, tout est dans les mots, et Victor a entièrement raison, il y a une volonté, enfin, vous avez tous les deux entièrement raison, il y a une volonté d'amalgamer et de faire peur aux gens, en imaginant que demain, il y aura des tentes partout dans Orléans, que les gens vont se faire agresser, qu'il va y avoir des bagarres entre Afghans et Syriens, enfin, des choses complètement, complètement délirantes qui ne se sont toujours pas vérifiées. Donc j'appelle, c'est un appel, alors là c'est vraiment une bouteille d'eau à la mer, j'appelle Serge Grouard à un peu plus de raison, un peu plus de respect de la personne humaine et de ces gens dont on aurait besoin, qui auraient besoin d'un peu plus d'empathie et de ne pas être surtout instrumentalisés comme ils le sont.
Et moi j'appelle les auditrices et auditeurs à nous dire s'il y a des campements sauvages à Orléans, si nous en avons vu, Serge Grouard en parler dans le document d'Europe 1 et Fabos, que tu connais, Mourad.
Oui, très bien.
Qui demande à Europe 1 des campements sauvages dans Orléans, où ça? Et donc voilà, si vous nous écoutez, que vous avez vu des campements sauvages, n'hésitez surtout pas.
Ah bah, il va te répondre qu'il les fait retirer immédiatement, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, et que donc c'est efficace, tu sais, l'histoire des girafes et des drapeaux.
Bien sûr.
Hein, le gars qui plante des drapeaux dans son jardin, son voisin lui demande, mais pourquoi vous plantez des drapeaux? Il dit, bah, c'est pour faire fuir les girafes. Il n'y a pas de girafes dans ce jardin. Bah, vous voyez, ça marche. Voilà, donc, on peut toujours retourner les choses à son avantage en disant, bah, je l'ai fait retirer, la police municipale est efficace et que je suis là pour protéger, comme disait Moix, mes compatriotes de ce danger absolu.
Juste après Tamboura, dans cette émission, nous allons recevoir Arnaud Reguigne, pardon, de la DAMO, l'association Droit. Alors, je ne sais jamais cet acronyme.
Droit, accessibilité, mobilité
orléanaise. On va parler de vélo. Est-ce que tu aurais une question à lui poser?
Oui, d'abord je voulais le féliciter pour le travail qu'ils font, puisqu'ils vont régulièrement et maintenant ils n'hésitent plus à aller en justice devant le TA, pour le tribunal administratif, pour obliger la métropole à un certain nombre de respect de règles, et puis à ce que politiquement le plan vélo soit effectif, tout simplement effectif. C'est même pas avancer ou progresser, c'est simplement qu'il soit effectif comme ça avait été promis. Alors une question. C'est une question, c'est pas contre le DAMO, bien évidemment, mais qu'est-ce que peut faire le DAMO, qu'est-ce qu'envisage de faire le DAMO pour freiner ce triste record que nous avons à Orléans du nombre de morts par habitant en France, qui est tragique, qui est vraiment, vraiment tragique, je le dis très tranquillement, et qui semble pas plus que ça inquiéter les pouvoirs publics locaux.
On te retrouve très vite dans cette émission. On te retrouve très vite, Mourad Guichard, journaliste indépendant que nous avons le plaisir d'avoir dans un bâton rompu presque toutes les semaines, à part le deuxième mardi chaque mois, et qui est également sur Le Média, hein, vous le savez, et Le Média, il doit être en enregistrement là en ce moment. Le Média, L'œil de Moumou, ça s'appelle, c'est un succès impressionnant, diffusé les mercredis, je crois, mercredi soir ou jeudi. En tout cas, allez voir L'œil de Moumou également sur Le Média. Dans un instant, Pas Renaud, Arnaud Reguigne est avec nous. Juste le temps de faire une respiration musicale. Écoutez-moi cette beauté.
Can I kick it?
Yes, you can.
Can I kick it? Can I kick it?
Yes, you can.
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 Well, I'm gone.
Go on, yeah.
Can I kick it?
to all the people who can quest like a tribe does. Before this, did you really know what I was? Comprehend to the track force, why? Cause getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nipper the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the tribe flies high like a dove.
Le son mythique du groupe de hip-hop et Tribe Called Quest. Depuis la fin des années 80 et jusque dans les années 2000, ils ont sorti quoi ? Ils ont sorti 6 albums, oui Victor ?
Oui, on s'était dit avec Arnaud que tu nous avais fait une petite feinte parce que c'est l'intro de Take a Walk on the Wild Side.
Absolument.
De Lou Reed.
Absolument. Et ils étaient forts pour ça, Tribe Called Quest. Ils ont repris comme ça des rythmes, ils appellent ça, je crois, de chanteurs de rock. Et justement, je disais 6 albums seulement, mais bon, ils ont établi leur grande influence sur le hip-hop et écrit leur légende. Et Tribe Called Quest revient dans l'actualité là en ce moment. Il y a 2-3 jours, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. C'est un temple qui célèbre les rockers et personnes qui ont contribué au rock. À l'instant, dans À bâton rompu, c'était un de leurs plus grands titres. Can I kick it? Puisse le frapper. Ouais, mais nous ici, vraiment, à bâton rompu, on demande pas la permission réellement. On demande pas. Non, on a pas besoin de ça.
À bâton rompu. Sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Il s'appelait Paul Vary, il avait 27 ans, il était tué par un automobiliste, un dingue, avec son SUV. SUV, c'est quoi
Suburban Vehicle.
Ouais, c'est les bagnoles.
C'est l'équivalent d'un 4x4 de centre-ville, en fait.
Un 4x4 de centre-ville, c'est quoi le sens de ce...
Ça n'a aucun sens.
Bah du coup, ouais.
On monte plus facilement sur les trottoirs avec.
Et on écrase beaucoup les têtes aussi également. Après une bagarre, Arnaud, c'est ce qui s'est passé, je crois qu'il était... Le SUV roulait sur une piste cyclable.
Oui, absolument. Alors d'après les premières sources et remontées sur le terrain des témoins et autres, donc Paul circulait sur une piste cyclable et derrière lui, donc l'automobiliste, pour gagner quelques secondes, a décidé d'emprunter cette même piste cyclable pour éviter les bouchons. En arrivant à la hauteur de Paul, il lui aurait écrasé le pied. Paul, pour manifester son mécontentement, a tapé sur le capot de la voiture, sur la voiture. Ça n'aurait pas plu au conducteur du véhicule et il l'aurait écrasé. Voilà.
Il l'a tué à 27 ans. Et tu me disais, Victor, hors micro, que le conducteur dit qu'il était terrorisé.
Oui. C'est la défense qui a mis en avant son avocat. C'est le fait qu'apparemment, quand il a tapé sur la voiture, il s'est senti mis en danger.
Oui.
Non, mais c'est une atteinte à la virilité, tu sais. La voiture, ça n'est jamais qu'un énorme pénis entre les mains de celui qui l'a conduit.
Nous sommes assez d'accord.
Donc il s'est senti mis en danger, il a terrorisé. Et c'est pour ça que, du coup, il a voulu faire une marche arrière, et la marche arrière, il l'a fait sur la personne.
Donc, et cet assassinat, ce vélocide, a suscité énormément de colère, je disais, dans toute la France, rassemblement dans plein de villes, devant les mairies, à Orléans samedi. Et tu as fait une déclaration d'ailleurs, tu peux nous la résumer ?
En résumant, je dirais que déjà, il faut sortir du déni, en fait. Cette violence, elle existe, on la subit tous au quotidien, qu'on soit cycliste, mais également piéton. On n'a pas envie de la subir encore et encore. Et on demande au pouvoir public de prendre les choses en main et de sécuriser les personnes les plus vulnérables sur l'espace public.
À Orléans, on le disait également, hein, on n'est pas bien pourvu en piste cyclable, sécurisée, c'est important à dire, mais ailleurs en France.
Ailleurs en France, ça se développe. Il y a des communes. Alors évidemment, la ville de Paris fait énormément de choses, rattrape son retard par rapport à d'autres grandes villes européennes. Il y a des villes moyennes qui s'y mettent également, des villes de la taille d'Orléans, la ville de Clermont-Ferrand, qui est pourtant pas une ville plate, où on va se dire, bah, le vélo, ça va être compliqué d'en faire dans une ville où il y a des montagnes, etc. Et ben, il y a une vraie volonté politique là-bas de développer des infrastructures cyclables sécurisées pour que ceux qui ont peur de faire du vélo aujourd'hui puissent le faire en sécurité.
On parle d'Orléans maintenant, on répond à Mourad parce que sa question était intéressante. Il y a beaucoup de morts à Orléans, on l'a su il n'y a pas longtemps. Alors j'essaie de retrouver cet article qui me parle d'un rapport qui est sorti avec... tu avais une question, Envie ?
Non, j'avais pas de question.
Non, c'est juste, je croyais que tu avais les chiffres du coup dans, te,
oui.
dans tes
papiers. Alors j'ai pas les chiffres d'Orléans précisément, mais j'ai les chiffres au niveau national pour 2023.
Sur Orléans, globalement, on est très mal situé par rapport à l'accidentologie des personnes vulnérables, que ça soit piéton ou cycliste. Il faut savoir que, alors, j'ai plus la période en tête, mais sur les derniers relevés, c'est la ville où on meurt le plus en France à vélo.
C'est ça. Entre 2019 et 2023, j'ai retrouvé. C'est un chiffre dingue. C'est un observatoire. C'est l'observatoire national interministériel de la sécurité routière qui a présenté ce bilan. Il y a eu la situation se dégrade, dit le rapport. 10 morts en 2023 contre 6 en 2019. Qu'est-ce que ça dit alors
Ça dit qu'il y a une demande. Oui. Ça dit qu'il y a de plus en plus de gens qui se déplacent à vélo, mais que les infrastructures ne suivent pas. Mmh. Et donc forcément, quand les infrastructures ne suivent pas, on met en danger des gens et des gens meurent malheureusement par une certaine inaction politique.
Mais c'est pas faute de réflexion par les élus. Écoutez ce document. C'était un conseil municipal à Orléans en juin 2021. Charles-Éric Lemaignan, je crois qu'il est adjoint chargé
de la circulation.
Écoutez-le.
Nous sommes en train de préparer une hiérarchisation des voies des rues d'Orléans pour un nouveau plan de circulation qui devrait être proposé à l'horizon 2023. Pourquoi 2023 ? Parce qu'il faut intégrer dans ce plan de circulation en même temps le projet de réaménagement des mailles dont monsieur le maire a parlé tout à l'heure. On a ensuite la mise en œuvre du plan vélo. On a un plan vélo qui a été voté, je crois, à l'unanimité en conseil communautaire. On va le mettre en œuvre. Le budget est prévu pour cela. Il y a l'élaboration d'une politique de stationnement, d'une stratégie de stationnement qui est prévue, qui sera proposée à la ville et à la métropole à l'horizon 2022. Et il y a aussi le développement de l'offre d'AO dont Romain va peut-être vous parler tout à l'heure.
On allait voir ce qu'on allait voir en 2022 et 2023. Un plan vélo, effectivement, Arnaud avait été en discussion, on en a parlé ici plusieurs fois, mais on en est où ?
Ça avance pas vraiment. Mais il y a une chose dont il mentionne au départ, c'est la refonte du plan de circulation, et c'est absolument une chose qui nous paraît essentielle avant de mettre en place des axes structurants à l'échelle de la métropole. Et donc c'est le but du plan vélo. Il y a également la pacification des quartiers résidentiels, et ça passe par la refonte du plan de circulation. Et forcément, aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur la métropole d'Orléans. Elle se densifie, donc il y a plus de monde, plus d'automobilistes.
Il n'y a jamais eu autant de personnes à vélo dans Orléans.
Également, mais il y a de plus en plus de monde aussi, également en voiture, parce que forcément, il y a de plus en plus de monde. Et les automobilistes, à cause des applications type Waze ou Google Maps, utilisent les quartiers résidentiels comme des raccourcis. Mmh. Et donc, des endroits qui devraient être pacifiés, en fait, où on pourrait se déplacer en sécurité, en se disant « là, je prends mon vélo parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures », se retrouvent également englués par un flux d'automobiles qui n'ont rien à faire ici, simplement pour gagner 10 secondes, pour gagner une minute, passe par ces quartiers résidentiels. Et la refonte du plan de circulation, pour nous, elle est essentielle, avant même de parler du plan vélo, pour pacifier ces quartiers-là.
Il y avait un plan là sur les mailles dont on parlait également, Charles-Éric Lemaignan, un plan ambitieux, vraiment, on en avait parlé également ici, qui était débattu au Conseil métropolitain, et finalement annulé. Enfin, le maire d'Orléans est revenu dessus il y a pas longtemps. Vous en pensez quoi, Odamo, de ce plan de refonte des mailles à Orléans ?
On a été consulté au départ. Oui. Il y avait un cahier des charges qui était clair et avec des préconisations qui étaient claires, qui étaient que les pistes cyclables devaient être sur les côtés, à côté du trottoir. Et à la surprise générale, il y a eu une décision politique qui a été de dire on met la piste cyclable au centre des mailles, là où il y a la partie boisée, en fait. Et ça a pour conséquence, en fait, d'énormément compliquer le déplacement des cyclistes pour pouvoir accéder et sortir de cette piste cyclable. Et donc, en fait, pour nous, le propos était complètement faussé dès le départ, en fait. Parce que si on ne suit pas les préconisations et les choses qui étaient fixées dès le départ, nous, on est sortis de la consultation en disant « c'est pas ce qu'on nous avait vendu. Désolé, assumez votre truc, mais nous, on n'est pas pour. »
Mais ils s'arc-boutaient sur cette solution de vous mettre au milieu de mettre les cyclistes.
Oui.
Au milieu de... Ah ouais, bien joué, Callaghan, comme disait, comme dirait Clint Eastwood. Bien joué, Callaghan.
C'est dans l'avenue de Jean Zay, là, en revenant de l'avenue des droits de l'homme, c'est ça ? Où, du coup, il y a le terre-plein central, effectivement, avec des bois, et effectivement, en vélo, c'est une galère pas possible pour y accéder.
Alors qu'il y a une piste unidirectionnelle de chaque côté avant, quand on est sur l'avenue des droits de l'homme, c'est très bien, c'est pas assez large, etc. Évidemment, ça a été fait avec des standards de l'époque, mais c'était plutôt cette idée-là que nous on défendait en se disant, on fait des pistes cyclables de chaque côté de la route. Et évidemment, quand on se retrouve à cet endroit-là, c'est compliqué d'y accéder et ça va nulle part.
Et quand vous êtes sorti des discussions, de toute façon, le plan a été annulé.
Il y a eu d'autres problématiques, en fait, de financement, etc. Et donc ça, c'est des problématiques plutôt à l'échelle de la métropole et des investissements. Donc nous, on a exprimer notre mécontentement par rapport à la place du vélo là-dedans, mais on n'a pas pesé en soi.
Une belle piste cyclable, c'est quoi pour vous, Damo ?
Une piste cyclable de qualité, c'est une piste cyclable qui est sécurisée, qui permet à tous de se déplacer dessus. Donc les enfants, les personnes qui ont peur de faire du vélo, elle est lisible forcément pour les cyclistes, mais également pour les automobilistes et pour les piétons. Chacun sait où est la piste cyclable et chacun sait où est la place de chaque utilisateur. Et c'est une piste cyclable confortable où, évidemment, on ne monte pas sur des trottoirs, on ne fait pas des bosses, on ne fait pas ce genre de choses. Voilà, c'est les trois critères. Sécurisé, lisible, confortable.
Dans l'agglomération, dans la métropole, pardon, je n'en sors pas de l'agglom. Dans la métropole orléanaise, est-ce qu'il y a des villes qui sont beaucoup mieux que les autres ou pas ?
Il y a des élus qui ont envie d'avancer. Moi, j'habite à Olivet et je vois qu'il y a de la volonté, mais même si c'est encore compliqué d'accepter de prendre de la place quelque part pour faire des pistes cyclables, parce que nos rues, on va pas casser des façades pour faire passer une piste cyclable. Mais... donc, l'espace étant contraint, il faut accepter de prendre de la place quelque part. Et ce quelque part, à notre sens, il est sur du stationnement ou sur une voie de circulation. On ne va pas piquer des trottoirs pour faire des pistes cyclables, parce que on sanctuarise les trottoirs, les piétons sont la priorité en ville, et ensuite, là où il y a la place, on développe.
Mais tu disais tout à l'heure que vous étiez dans la discussion au début pour les mailles, ils vous consultent ou pas ? J'allais dire, que ce soit le maire d'Orléans ou les maires des...
Non, on n'a pas vraiment de dialogue avec la ville d'Orléans sur des projets très ponctuels. Ouais. Maintenant, on aimerait... travailler sur des choses beaucoup plus structurantes, en fait. Le plan vélo, il a été un petit peu, dévoyé, dans le sens où il y avait des axes qui étaient totalement définis en se disant, ça passe par là, ça doit passer par ici. Enfin, évidemment, il y a de la couture, il y a de l'ajustement, etc. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec du confetti d'aménagement cyclable à droite à gauche quand on requalifie une rue. Et c'est pas l'idée, en fait. C'est pas de se dire, OK, on va faire une rue dans un quartier résidentiel, on va mettre un picto vélo et on va prendre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, 20% de la requalification de cette rue sur l'enveloppe du plan vélo. Et donc, c'est dévouer, en fait, l'argent qui devait être utile à créer des axes structurants à l'échelle de la métropole, se dire, on fait pas du maillage, en fait. On fait du confetti à droite à gauche.
Je suis tombé par hasard sur un courrier que vous aviez adressé aux élus, où vous parlez, il y avait un comité d'usagers qui était mis en place.
Oui.
C'est quoi ?
En fait, c'est une instance sur laquelle on donne la métropole nous donne les grandes orientations et la volonté de développer le vélo sur des axes. On en discute. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait les documents à l'instant T, donc on manquait de recul pour pouvoir donner notre avis et puis en discuter entre nous avant d'avoir un avis définitif. C'est une instance qui avait lieu une fois tous les 3 mois avant, et on a l'impression que ça se délite un petit peu. Mmh. On a de moins en moins de contact avec la métropole. Alors peut-être qu'il y a moins de gens dans les services pour suivre ce plan vélo, mais oui, c'est compliqué d'avoir un dialogue constructif aujourd'hui et de pouvoir avancer concrètement sur les projets.
Mais quand on va sur les différents sites là, de la ville d'Orléans et de la métropole, tout est parfait sur le vélo. Je veux dire, il y a pas de, les bilans sont quasiment pas faits. Moi, il faut que je me tourne vers vous, Damo, ou des gens de la Vélorussion, et bah, d'autres collègues le font également. Hein. J'ai lu des articles assez pertinents dans la République du Centre notamment. Vous n'avez pas le moyen de leur dire c'est faux ce que vous dites ou...
Nous, on constate que les choses n'avancent pas, oui. De toute façon. Oui. On demande, et c'est une chose qui est écrite dans le plan vélo, c'est un bilan annuel de l'avancée du plan vélo. Oui. Et d'autres villes le font, oui. En disant, voilà, telle ligne qui était prévue, la ligne 1 typiquement, qui devait être mise en place assez rapidement, c'est celle qui fait Saran, Orléans, oui. Olivet, Orléans, La Source. C'était un projet qui devait être prioritaire. Mmh. On attend, nous, de savoir quand, comment et quand est-ce que ça va se faire. Aujourd'hui, il y a le pont Georges V qui a été fait, la rue Royale qui a été fait. Mmh. Mais une fois qu'on a traversé le pont Georges V au sud, en direction d'Olivet, il n'y a plus rien. Mmh. Et c'est pareil pour la partie nord quand on va vers Fleury-les-Aubrais ou Saran. Mmh. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est simplement un bilan simple en se disant, voilà, la ligne, elle fait tant de kilomètres. On est à combien de pourcentage? Et le cas sur toutes les lignes en fait qui devaient être faites. Ouais. Aujourd'hui, ben ce bilan comptable, on l'attend encore.
Et parce que parmi vous, au Damo et des gens autour de la Vélorussion, il y a ce qu'on appelle les vélotaffeurs.
Oui.
Je me rappelle d'avoir eu dans une émission, j'ai demandé que tu nous expliques. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui savent toujours pas ce que c'est. Vélotaffeurs.
Un vélotaffeur, c'est tout simplement une personne qui décide d'aller au travail à vélo
tous les jours.
Tous les jours, oui, qu'il pleuve, qu'il neige. Après, forcément, si les conditions sont dantesques, on s'autorise à prendre les transports en commun ou la voiture. Hein. Ouais. On se met pas des coups de fouet. Enfin, tout va bien. Et puis après, plus généralement, c'est des personnes qui utilisent le vélo au quotidien pour simplement aller voir des amis, aller faire 2-3 courses. Enfin, ce sont des utilisateurs du vélo au quotidien, tout simplement.
Et il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Et il faut les accompagner.
Mais bien sûr. Mais c'est bien pour ça que je posais la question. Mmh. Je sais aussi que parmi vous, il y en a qui ont des blogs.
Oui.
Vous voyager à travers l'Europe, notamment, j'ai vu des belles images. Alors, c'était aux Pays-Bas, évidemment. L'autre pays du fromage, mais attention, du vélo.
Surtout le pays
Mais l'autre pays du vélo, réellement. Vraiment, il y a des choses qui se passent et les élus gagneraient à vous entendre là-dessus. Mais est-ce que c'est possible de faire à Orléans ou dans la métropole orléanaise des choses que j'ai pu voir sur vos blogs aux Pays-Bas, par exemple?
La pacification du quartier. Enfin, ce qu'on parlait, le plan de circulation, c'est typiquement la première chose qu'ont fait les Pays-Bas en se disant, faut arrêter que les quartiers résidentiels soient des raccourcis. Et ça, oui, c'est possible. Ça ne demande pas de l'argent, ça demande des sens interdits, ça demande des plots, ça demande un investissement minime. Mais oui, c'est possible d'apaiser les quartiers résidentiels. Mmh. Ensuite, évidemment, si on veut parler d'investissement plus lourd, oui, il faut de l'argent, il faut flécher, il faut accepter, il faut arrêter de détourner cet argent, entre guillemets, j'utilise un mot fort, pour autre chose. Et il faut assumer cette volonté. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain aux Pays-Bas, évidemment. Et ça continue de progresser aux Pays-Bas. Mais il faut une prise de conscience que si on veut développer les choses, ça ne se fait pas comme ça.
Oui, j'ai l'impression que c'est aussi un enjeu plutôt aussi national. Et je voulais justement poser la question par rapport à la pacification des zones résidentielles. Je ne sais pas si vous avez eu le communiqué de presse là, qui est sorti du ministre des Transports, et il dit qu'il ne faut pas opposer les modes de transport, mais réfléchir à un partage harmonieux. Est-ce que du coup, vous seriez plutôt d'accord avec ça, sachant qu'en plus...
Mais penses-tu, ce sont des ayatollahs?
Oui, sachant qu'en plus, en regardant, justement, en me posant cette question de est-ce qu'il faut qu'on confronté ou pas, j'ai constaté que entre 45 et 58% des décès à vélo étaient dus à des personnes en véhicule motorisé. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment ne pas opposer les...
Ça, quand on dit on ne veut pas opposer les modes, c'est on dit on ne veut rien faire. En fait, on n'oppose pas les modes. En fait, les modes sont opposables. Quand on a fait une rue où il n'y a pas de piste cyclable, on a décidé d'opposer les modes. On a décidé de mettre en conflit un cycliste qui a peut-être 10 ans et qui va à l'école ou 13 ans et qui va au collège. en se disant, bah, excusez-moi, là, on oppose les modes. On fait en sorte, on oppose les gens, en fait. On les met en, on met des personnes en danger. Alors que si on crée un aménagement cyclable, excusez-moi, on n'oppose pas les modes, on permet à chacun de se déplacer en sécurité. Donc oui, les modes sont opposables, et c'est un leurre de se dire il ne faut pas opposer les modes. À quoi ça revient de dire qu'il ne faut pas opposer les modes? Et on le voit à l'échelle de notre métropole, c'est ce qui s'est passé à Saint-Jean-Blanc quand la rue de Mai a été requalifiée. Typiquement, nous, on avait préconisé de supprimer des stationnements sur la rue, parce que les gens... La grande majorité des gens ont de quoi rentrer leur voiture dans leur résidence. Et il y a des parkings aux alentours qui permettent de stocker les voitures de ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Ce qu'ont fait les élus, ils ont dit non, on n'en a rien à faire. On va prendre un trottoir qu'on va donner aux cyclistes, on va prendre un trottoir qu'on va donner aux piétons. Le résultat, c'est que les piétons marchent sur les deux trottoirs. C'est évident, la place des piétons est sur les trottoirs. Et donc, on se retrouve avec des cyclistes sur les trottoirs, des piétons mélangés avec les cyclistes. Et là, typiquement, on oppose les modes. On a opposé les piétons et les cyclistes. Et on se retrouve dans un truc qui ne fonctionne pas. Mmh. Alors que si on avait retiré les places de parking, il y aurait de la place pour tout le monde. Mmh. Voilà, c'est un choix.
Il y a quelque temps, vous alertiez par les réseaux sociaux. Hein, quand il y avait une voiture qui était garée sur un trottoir ou mal garée, vous mettiez des photos avec le hashtag GC. UM, garé comme une merde. Oui, on peut le dire. Vous avez eu des retours ou pas, ou de la police nationale municipale ou des élus?
Alors, j'ai cassé du dos sur Saint-Jean-le-Blanc. Il y a eu une équipe municipale qui a changé en cours de route. Là. Donc, on a un contact un petit peu plus apaisé avec les nouveaux élus. Et c'est très bien. Et on a mis en place une campagne de sensibilisation auprès des personnes qui se garent sur les trottoirs à Saint-Jean-le-Blanc. Donc, en partenariat avec la mairie et la police municipale. Donc, l'idée, c'était de déposer des flyers. Et on continue le faire. On va le faire jusqu'à la fin de l'année. Là, sur les véhicules garés sur les trottoirs, en leur disant, voilà, vous enfreignez la loi. C'est pas passible d'une amende allant jusqu'à 135 euros parce que c'est un stationnement dangereux. Ça oblige les piétons à aller sur la route. Donc, on met en danger des personnes. Et l'idée, c'est de cartographier un petit peu les points dangereux dans la ville et de faire remonter aux élus, de se dire, à partir d'un moment, soit on trouve une solution en se disant, ben, vous dites aux gens de rentrer leur voiture chez eux, on aménage des places de stationnement peut-être à certains endroits, mais pour les gens qui ne jouent plus le jeu, libre à vous ensuite de faire votre taf et de dire à la police municipale, vous verbalisez ces gens.
Il y a un moment aussi où on parlait de possibilité pour les cyclistes de mettre leur vélo dans les trams.
Ouais.
Il y a un terme très technique que j'oublie à l'instant.
L'intermodalité peut-être.
L'intermodalité,
alors,
absolument.
C'est pas tout à fait ça.
Ça marche ou pas?
Alors l'intermodalité, c'est plutôt je prends mon vélo pour aller à la gare,
et
je gare mon vélo à la gare où je peux le mettre dans le train, en effet, ou dans le tram. Dans le tram, aux horaires de pointe, c'est compliqué.
Ouais, un peu compliqué.
Et je crois que c'est pas autorisé. Et de se dire, eh ben, j'arrive. Alors, c'est ce que font beaucoup les Hollandais, en fait. Ils ont un vélo pour aller du domicile à la gare et un vélo pour aller de la gare au travail, parce qu'ils ont pris le train entre temps. Et donc, typiquement, oui. Mais alors, pour aller à la gare et pour aller de la gare au travail, il faut des pistes cyclables.
Bien sûr, évidemment. Mais bon, ils sont malins, c'est hollandais. Mangeons du fromage, je vous le dis. T'as une autre question, Steven, ou pas? Au niveau national?
C'est surtout que je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on garde un attachement comme ça à la voiture, alors qu'on constate que de plus en plus, notamment depuis la Covid, on a un accroissement des utilisateurs de vélos, en fait. Donc, est-ce que la revendication, ce serait pas plutôt de dire que il faut accepter le changement de mode de déplacement, tout simplement, mais vraiment à l'instaurer dans les mentalités, arrêter de faire la promotion des SUV et ce genre de choses qu'on peut voir à la télévision. Par exemple, on n'a pas de pub sur les vélos, ou alors
je ne suis pas au courant. Alors, il n'y a pas de pub pour les vélos pour des raisons simples. En fait, le vélo n'a pas besoin de faire de la publicité pour en vendre, contrairement aux vendeurs de SUV et de voitures. Et lorsque vous achetez en fait un SUV, il faut savoir que lorsque vous l'achetez neuf, il y a environ 2 000 euros qui est là pour rembourser le prix qui a coûté la publicité, en fait. Et donc, évidemment, ils ont une force de frappe énorme. Et à la fin de la pub pour les SUV ou pour les voitures de manière générale, il y a un truc qui dit « Prenez les transports en commun. » Voilà, c'est le manger-bouger des trucs comme Coca, Sprite et autres trucs dégueulasses. Donc, oui, il y a forcément une prise de conscience. Mais à échelle nationale, en fait, là, il y a un moratoire, en fait, qui a été lancé par le ministère des Transports. Et c'est très important de le faire, évidemment, parce que ça permet de faire une prise de conscience, en tout cas sur la problématique. On n'est plus dans le déni. Oui, la violence motorisée existe, et comment on la traite? Mais avant de parler de ces solutions-là, en fait, moi, j'ai noté un petit truc. Il faudrait déjà respecter les engagements déjà pris. En 2022, Elisabeth Borne avait prévu pour la période 2023-2027 un plan vélo, marche, avec une enveloppe de 250 millions d'euros par an pour aménager le territoire. Et si je vous demande combien d'euros ont été investis en 2024, à votre avis, à l'échelle nationale?
Sur 250 millions ?
250 millions.
Allez, 15.
Zéro. Zéro. Et combien sont prévus en 2025 ?
Zéro.
Zéro, voilà. Donc il y a 400 collectivités en France qui avaient signalé leur intérêt et commencé à travailler localement. Je ne sais pas si c'est le cas de la ville d'Orléans, mais en tout cas en France. Et tout est en stand-by parce que l'argent, en fait, il est bloqué. Donc avant de réfléchir à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser, etc., assumez, mettez l'argent, en fait. Il y a besoin, il y a des collectivités qui le réclament, faites-le, mettez l'argent sur la table. Et après, il y a plein de choses, évidemment, à échelle nationale qu'on peut faire pour sécuriser, peut-être revoir le code de la route, se dire qu'en ville, il faut qu'on roule à 30 km/h, sauf sur certains axes. C'est une décision nationale qui peut être faite. Ça peut être comme en Espagne, en fait, adopter une nouvelle législation pour augmenter la distance de sécurité quand on double un cycliste. Aujourd'hui, en France, c'est 1 mètre en ville et 1,50 mètre en dehors.
En Espagne, c'est
tu changes de voie.
Ah oui.
Tu changes de voie, tu ne rases pas le cycliste. Il y a une personne en face, tu attends. Et quand la voie est libre en face, là tu doubles en changeant de voie. Ou alors de faire comme en Angleterre, de prendre en compte, en fait, les plaintes des cyclistes. Parce qu'aujourd'hui, on va au commissariat, on dit il y a une personne qui m'a mis en danger. Oui, j'ai sa plaque. Oui, j'ai pris en photo. Mais en fait, la plainte est classée sans suite très rapidement. Mais en Angleterre, ils acceptent qu'on utilise les caméras type GoPro, etc., pour dire, voilà, j'ai une preuve, et ça va au bout du truc. Oui. Donc voilà, il y a plein de choses qui permettent de mettre en place des règles à échelle nationale et qu'on pourrait décliner à échelle locale pour sécuriser les cyclistes.
Tu utilises une GoPro, toi, ou pas ?
J'ai commencé à en utiliser une le jour où une voiture de police m'a coupé la priorité sur un rond-point. Voilà, bon, je suis tombé au mauvais moment, au mauvais endroit.
Tu allais porter plainte ou pas ?
Non, c'était pas la peine, mais justement, j'ai arrêté. Oui. En fait, j'ai arrêté parce que, au final, ce sera utile le jour où je serai mort et ma femme, elle pourra aller avec ma GoPro montrer que. Mais en attendant, au final, ça sert à rien, là. Mm-hmm. Donc, on demande, en fait, des mesures concrètes qui permettraient de faire avancer les choses à échelle nationale mais également locale.
Une dernière question, est-ce que tu crois que ça va changer ou pas? Il y a de plus en plus d'associations comme vous, comme disait Mourad, vous avez maintenant, on vous voit, vous portez plainte, on parle de vélo, notamment dans des discussions à la métropole ici, partout, à la région. Est-ce que tu crois que ça va changer ou pas? T'es optimiste?
Pour que ça change, il faut des élus volontaires.
Oui.
Nous, on n'est pas aux manettes. Ouais. On tire la sonnette d'alarme. On fait malheureusement ce genre de manifestations, de recueillement quand il y a une victime. Mais on n'a pas les clés en main. On peut pas changer les choses, nous. Donc c'est à la population d'un moment de se prendre en main et de choisir peut-être des élus qui ont envie de ce changement. Nous, on est là pour alerter, pour essayer de dire qu'il y a des solutions qui sont possibles, qu'il ne suffit de pas grand-chose au final. Je repense encore une fois, apaiser les quartiers, c'est la première des choses à faire. Et on sera là, quel que soit le parti politique, on discute avec tout le monde, en fait. Dans la métropole, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, et on a envie que les choses avancent. Mais pour ça, bah, nous, on ne peut pas le faire sans les élus.
Et ben nous, ici sur Radio Campus, nous sommes à votre disposition pour en parler régulièrement. Je disais, c'était un rendez-vous tous les ans. Maintenant, on fait ça, mais on pourrait le faire deux, trois fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Victor, Steven.
Avec plaisir. Oui, avec plaisir.
Vous faites du vélo tous les deux ou pas?
Moi, je vais faire du vélo pour acheter des clubs.
Ah ben oui, c'est ça.
Et moi, on m'a volé ma roue arrière. Donc. Ah
ben
ouais.
Bah oui, moi je commence à en faire et c'est très dangereux à Orléans, quoi. Je continue à le dire. Merci à toi, Ardo.
Merci beaucoup.
Damo. Prochaine Vélorussion, vous avez une date ou pas?
Ouais, alors tous les derniers vendredis du mois, donc là de mémoire, c'est le. Je triche, je vais chercher, je sais plus, c'est le 31 ce mois-ci. Ouais, c'est le 1er. 1er novembre, vendredi 1er novembre. Et on organise une Vélorussion dimanche 10 novembre également, spéciale lumière, parce que pensez à vous éclairer quand vous vous déplacez à vélo la nuit, c'est ultra important. Ouais. Voilà, on tient à tenir ce discours de prévention également. Voilà, éclairez-vous quand vous vous déplacez à vélo. On n'y a pas d'infrastructure cyclable partout et donc on compte également sur vous pour être visible et c'est ultra important. Donc voilà, c'est rendez-vous devant le théâtre d'Orléans dimanche 10 novembre à 16h30. Éclairez-vous.
Merci à toi d'être passé dans un bâton rompu. Merci. Et à très 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 vite. On va finir cette émission avec un peu de musique en attendant Ride On qui se prépare à s'installer, la meilleure émission de reggae du monde. Et puis sur Radio Campus Tour, c'est les Improgrammables avant du jazz à 21h. On termine cette émission avec du reggae comme tous les mardis avec Ben Harper. I can change the world with my own two hands. Changer de monde avec ses deux mains. Changer de monde. À mardi prochain, ciao. Make a kind of place. Oh, with my own two hands.